Kerosene.
A passé le relais, vous êtes toujours à l'écoute de Canal B dans le cadre des 40 heures de direct pour les 40 ans de cette station à laquelle on est très attaché. C'est l'émission Kérosène qui me prend l'antenne. D'habitude, on est le jeudi soir entre 21h et 23h, et ce soir, on va être entre 2h du matin et 5h pour consacrer une émission en hommage à, on va payer notre dette à Steve Albini qui est décédé la semaine dernière, et on va même révéler pourquoi il est décédé.
Ouais, pourquoi il est décédé ? Pour les 40 ans de Canal B déjà. C'est un petit indice.
Et donc on a commencé avec un générique particulier, avec notre générique habituel, et puis cette reprise qui nous a été envoyée par le groupe parisien Avec Toi dans un champ, qui avait enregistré ça en 2019, mais il n'avait pas publié, puis à la mort de Edbini, ils nous l'ont envoyé pour, parce qu'il nous... Avec Toi dans un champ, on retrouve le batteur du groupe Summer, un groupe qui avait intitulé son album Front Wave. Qu'est-ce qui se passe, Sabrina? Il y a des problèmes de technique?
Oui, le bouton, il aime pas, il veut pas.
Ben c'est la faute du bouton.
Ah, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de voix?
Si, si, mais ça se coupe régulièrement quand j'enlève mon doigt.
Bah, enlève jamais ton doigt.
Donc on va commencer avec on va d'abord parler un petit peu de sa carrière artistique
dit,
à ce monsieur.
On se dit pas bonjour en fait.
Oh, oui, bonjour. Ouais, hein. Oh, bonjour.
Salut. Alors bonjour Sabrina.
Bonjour.
Salut Lester, salut mon cher Mad Marteau.
Bonsoir.
Il y a Mistress Bombache également dans la
Hello.
Place. Donc Steve Albini, ouais, il est né aux États-Unis tout simplement.
Pasadena, Californie.
Et puis après, il a fait ses études du côté d'un bled pas très loin de Chicago. Et voilà, il commence à
Est-ce qu'il était bon élève?
Moyen, je crois. En tout cas, voilà. Sur le campus, il avait différentes activités. Il faisait DJ, il était critique musical dans différents fanzines. Et puis, il aimait bien déjà provoquer des petites querelles musicales. Le provocateur branleur, c'est un peu ce qu'il caractérise un petit peu les débuts de Steve Albini. Il a acheté une boîte à rythme, la fameuse Roland TR-606. Il a enregistré tout seul le premier maxi de Big Black, première trace discographique de Steve Albini, même si un label américain a exhumé son premier groupe qui s'appelait Just Duck, où on l'entend, c'est un extrait live de ce premier groupe. Le son est très moyen, mais on l'entend gueuler sur l'ingé son pour lui dire « Ah mais putain, ta lumière disco, ça fait chier !»
Mais il était hyper provocateur, parce qu'enfin, dans ces jeunes années là dont tu parles, il écrivait aussi dans des fanzines, il disait « Un bon flic, c'est un flic mort », etc. Une espèce de provocation. Mais en même temps, peut-être c'était un avant-gardiste quelque part qui a un bon flic, un flic mort. Et écoutez, moi ça me parle.
Et donc il avait soudoyé un de ses potes pour financer la sortie de ce premier CDEP. On retrouvait en plus dans les premiers exemplaires des morceaux de rasoir, des tampons usagés. Ça s'appelait Lungs. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Dead Belly. C'était sorti en 1982.
Yeah.
Voilà, après avoir enregistré son premier EP tout seul dans sa chambre, Steve Albini, en fait, déjà, on va revenir sur pourquoi Big Black. En fait, lui, il est, à ce moment-là, quand il est étudiant, il tombe sur des bouquins du Marquis de Sade, il adore, et puis en fait, il se lance là-dedans, il voulait un... Big Black, pour lui, c'était un trou noir dans lequel on pouvait mettre toutes les déviances, tout ce qui est pas très beau à voir chez l'être humain de manière générale. Et en même temps, Big Black, ça veut dire aussi gros nègre. Donc ce nom lui a été reproché bien plus tard, ça avait créé des polémiques au tout début. Mais malgré tout, il se lie d'amitié avec des membres du groupe Naked Reagan, un groupe de Chicago, un des pionniers fer de lance du mouvement hardcore dans la scène de Chicago. Il est complètement fan de ce groupe, il est également fan d'un autre groupe qui sévit à Austin dans la même époque, qui s'appelle... Scratch Acid, voilà.
Scratch Acid.
On en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Et Naked Dragon, en fait, ils rencontrent leur chanteur, Jeff Pezzati, puis leur guitariste Santiago Durango. Et avec Santiago, ils s'entendent bien. Et en fait, il lui fait écouter sa première maquette, son premier EP. Et Santiago commence à faire de la zik avec lui. Et un soir, en fait, ça s'est documenté, toute l'histoire du Big Black, hein, ce que je vais vous raconter, sauf celles et ceux qui cherchent pas à s'intéresser, c'est sur Internet. Le chanteur, donc, Jeff Pezzati, les entend répéter, trouve ça pas mal, et se dit, tiens, si je branchais la basse là-dessus, quoi. Et en fait, ça donne, en fait, la première version trio de Big Black, qui enregistre dans la foulée, parce que Albini, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Je pense qu'il était un peu hyperactif dans ses jeunes années. Il prenait pas beaucoup de drogue, il buvait pas beaucoup, il prenait quelques amphétamines à l'époque. Et donc, ils vont très vite. Et ça donne le deuxième EP de Big Black qui s'appelle Bulldozer. Et on a écouté le morceau Cess, un personnage biblique qui avait pas très bonne réputation, qui n'a pas fait que du bien dans le monde, l'ami Cess. Et on enchaîne avec un autre EP, Racer X, enregistré un petit peu après. Donc là, on part en 1985. Le groupe commence à se faire remarquer aux États-Unis. En tout cas, ils sortent de Chicago pour faire quelques concerts. À chaque fois, c'est assez particulier, surtout que voilà, il y a des sons pas. La boîte à rythme, il y a peu de groupes qui jouaient avec une boîte à rythme à l'époque dans la scène hardcore américaine. Donc lui, il est très influencé par Neubauten, le son de guitare également qui est très lame de rasoir. Il utilise des médiateurs spéciaux pour très métalliques et souvent pas très bien définis au niveau de la découpe. Il les taille lui-même pour que ça donne justement encore
plus. Il les taille lui-même. Ça c'est
de son.
Je me rappelle, donc, c'était un beau moment, c'est quand il les taillait lui-même, c'était énorme au niveau des médiateurs.
Et donc le label américain Homestead, un des gros labels indé qui commence à émerger milieu des années 80, 1985, leur propose un deal et ils sortent le EP Racer X. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Shotgun. We'll be right back. Jusqu'au bout, un petit Larsen.
Jusqu'au bout, un petit Larsen, voilà.
Donc après, Racer X, Pezzati de Nicky Dragon quitte le groupe pour se consacrer justement à Nicky Dragon, alors que Santiago Durango, le guitariste, lui, par contre, quitte Nicky Dragon pour se consacrer à Big Black. Sur cette scène émergente de Chicago, en fait, il repère le jeu particulier d'un jeune bassiste qui, lui, vient de la scène de Détroit et a bossé également dans les studios, mais pour enregistrer, aider à enregistrer les trucs de Parliament avec George Clinton, Bootsy Collins.
Et que c'est des mecs plutôt sains, en
ça
fait.
Ça amène un jeu différent au niveau du jeu de basse, un jeu plus groovy, avec, voilà, qui donne une complémentarité à la boîte à rythme assez martial et spartiate de Steve Albini, une boîte à rythme dont il a piqué l'idée à Eric Debris, le leader de Metal Urbain, et d'un autre projet un peu obscur qui était sorti sur Neurose, dont Steve Albini n'a cessé de parler jusqu'à la fin. Ça s'appelle Dr. Mix and the Remix, et justement d'ailleurs, quand dans le passage des trans, quand Sheila qui était venu, je pense qu'il bossait avec Radical, et le boss de Radical connaissait Eric Debris, et Metal Urbain qui était ce soir-là en fait en concert avec les Berus. Et Steve Albini avait rencontré Eric Debris, il était tout content en fait.
Voilà. Bah écoute, on est bien content. C'est une belle anecdote ça.
Ouais, une petite anecdote qui vient. Non, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de caser un morceau du premier album de Shellac, de Big Black. Donc il va falloir que je revienne un petit peu.
On peut rester sur cette anecdote aussi qui était chouette.
Là, on a écouté un morceau qui s'appelle Ready Man, qui est extrait d'un EP qui s'appelle Headache, qui était sorti en 1987 sur Homestead. Et en fait, ça a été la fin du. Voilà, ils se sont pris la tête avec Homestead Big Black, parce que Homestead avait sorti, avec l'accord de Big Black, un CD promo, et en fait ils voulaient pas que ce soit à la vente, et Homestead a vendu des exemplaires dans son dos, et il avait contacté les radios en se faisant passer pour un acheteur, et en fait il en a voulu à mort à ce label.
Mais tu m'étonnes, des vilains.
Un pote de ses années étudiantes qui s'appelle Corey Tusk a décidé de monter un label à ce moment-là, ça s'appelle Touch & Go, un label qui a
accompagné les années,
voilà. Et donc c'est lui qui a publié officiellement ce maxi Headache qui a sorti l'album d'après. T'as pas retrouvé Bazooka Joe sur ma clé, Sabrina?
Non.
Comment ouais, attends, on peut faire un capillon,
de Tonton Gwen.
Alors c'est dans Albini Artist sur le fichier.
Ouais, le fichier Albini Artist déjà.
Bon, en même temps,
le
c'est
nom
pas
du fichier
c'est
déjà.
Pas bien grave. On va écouter un album.
Albini, ça me dirait.
On va écouter tout un album.
Non, on va écouter.
On va écouter un morceau.
Un extrait
en fait,
de l'album qui suit. C'est le deuxième, l'album définitif de Big Black. On reviendra sur le premier album un petit peu après. L'album s'appelle Songs About Fucking. En fait. Après la sortie d'Atomizer, l'album qu'on ne va pas écouter pour l'instant.
Ça te fait marrer, toi.
Oui, en fait. Atomizer. Le groupe tourne aux États-Unis et ils vont pour la première fois en Europe. Je crois qu'ils accompagnent Sonic Youth. En tout cas, ils font des concerts à Londres avec Sonic Youth. Et un certain Colin Wallace les repère et note ce groupe en disant « Putain, c'est vachement bien ». Vous allez voir pourquoi on reparlera de Colin Wallace un peu plus tard dans cette émission à propos de Steve Albini, quelqu'un qui a eu sa petite importance dans son parcours musical. Et ils jouent en Angleterre, ils sont avec les copains de Sonic Youth, ils leur disent bah non Steve, tu peux également distribuer tes disques avec le label Blast First, label anglais naissant. Et malheureusement en fait le groupe commence à se tirer entre les pattes, en fait Steve Albini
entre les pattes,
ils se tirent la bourre entre eux quoi. Et Steve Albini ne supporte plus le bassiste Dave Rayleigh.
En même temps, ce mec était vraiment
Voilà, ils s'entendent.
Enfin, moi, je dis ça, c'est gratuit. Hein,
mais... Attends.
Qu'est-ce qui se passe?
Il y a des soucis, là.
Les PC s'arrêtent.
Les PC s'arrêtent. Donc, on peut continuer à parler quand même?
Oui, allez-y.
Tonton Gwen, continue.
Big Black, ils se brouillent entre eux. Et avant la sortie de cet album, Songs About Fucking, qui a été enregistré en première partie... Ils ont enregistré une partie en Angleterre et une autre partie du côté de Chicago. Et en fait, le groupe a décidé d'enregistrer et puis de splitter tout simplement. Et le groupe n'existe plus vraiment. Mais ils vont quand même venir faire une tournée européenne en 87. Et pour la petite anecdote, à cette époque-là, je suis en voyage scolaire à Londres avec mon ami Erwan Nock. À ce moment-là, notre prof de sport qu'on avait bien, qui s'appelait Jean-Yves Balbous, nous accompagne.
On salue peut-être.
Et non, il est décédé.
Oui, ça n'empêche pas de le saluer. Hein.
En fait,
salue sa famille.
Il nous fait rencontrer son frère qui vient avec nous nous accompagner. Donc son frère, il arrive avec une petite bedaine, un mec assez...
petite bedaine.
Et puis un t-shirt Joy Division. On venait de découvrir Joy Division, on commence à lui parler, et puis il s'entend bien avec nous. Je suspecte d'être aussi un peu attiré physiquement par ma modeste personne.
Alors,
et il nous propose de sauter le mur.
T'avais un crush avec Joey Balbouze.
Non, avec son frère.
J'ai oublié son frère.
Ouais, ouais. Et il nous propose d'aller voir un groupe qui s'appelle Big Black. Alors je note, puis en fait, on n'a jamais fait les. Enfin, on n'a pas osé franchir le pas de faire le mur, de quitter tout le monde et de risquer une exclusion du collège. On est en troisième à ce moment-là. Et en fait, je note quand même le nom parce qu'on se dit putain, Big Black, quel drôle le nom. Et en fait, j'aurais pu voir la dernière tournée de Big
Black. Vous étiez en troisième, pas moi.
Immortalisé sur un live, le label, c'est Big Pile, le nom de cet enregistrement qui a été publié après. Il y a une cassette VHS d'ailleurs d'un des concerts londoniens et également, d'ailleurs, pour l'anecdote, un des derniers concerts de Big Black, il y a les membres de Wire qui sont montés sur scène avec lui et il était ravi car en dehors de Peel, Wire, ça a été une grosse influence. Peel, le premier album, Second Edition, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément chez Steve Albini. Il a toujours parlé de ce disque référence. Le son de guitare également des premiers Killing Joke. Vous me faites signe quand ce sera de nouveau, pour à nouveau passer la musique.
Mais oui, bien sûr. Il faut que Windows se lance.
D'accord, okay, on va continuer.
C'est un montage total en fait.
Il n'y a pas de problème. Du coup,
on va continuer à parler.
Et en fait, j'ai continué de correspondre pendant
avec le prof
six
de
mois
sport.
Avec le frère de mon prof de sport.
T'es quand même tordu, le mec.
Des cassettes à l'époque. Tordu. J'avoue que j'étais jeune, j'étais plus en train. Alors, je connaissais Joy Division, j'avais écouté New Order avec mes frères, les Cure et compagnie, on maîtrisait bien. Et je me suis pris du Neubauten. J'étais pas préparé à l'époque par écouter
Neubauten.
Ouais,
mais c'est un peu bizarre.
J'ai eu du Live Skull. Ouais. Et comme les premiers.
Et jeune, c'est un peu bizarre. Premiers.
On s'envoyait des lettres avec des cassettes.
C'était une école privée ou.
Oui.
Ouais, donc ça explique aussi beaucoup de choses peut-être sur l'attirance des jeunes garçons.
C'est vrai qu'avec Erwan qui a fait partie de Cashul, qui avait créé le fanzine Kero Idols auquel je participais, on s'est toujours dit mais si on avait vu le concert de Big Black, on n'aurait rien compris, on aurait sans doute détesté cette époque-là.
Qu'est-ce qui vous serait arrivé aussi physiquement?
J'en sais rien, on aurait peut-être pogoté certainement.
C'est intéressant d'en parler le temps que Windows se lance quoi.
Donc Windows il continue de se lancer toujours.
Oui, j'ai récupéré la playlist mais j'ai plus l'enregistrement.
Ah bah écoute Sabrina, ça progresse quand même, donc ça c'est un bel espoir. Non si c'est grave, c'est grave, c'est hyper grave, il faut absolument qu'on enregistre.
Il y a une sauvegarde de toute manière à Canal B quoi, donc on pourra retrouver l'émission. Est-ce qu'on peut relancer de la musique?
Oui, a priori c'est bon.
D'accord, bon on va essayer, donc on va s'écouter deux extraits de toute manière de Songs of Bad Fucking et ensuite on va quand même revenir sur l'album Atomizer puisque c'est comme l'album où il y a quand même,
aussi,
en plus, c'est l'album où il y a le morceau Kérosène, alors on va pas vous passer parce que déjà on a passé les sorts génériques et donc le morceau Tiny Kings of the Jews, voilà encore un. Je sais pas s'il pourrait publier ce genre de morceau à l'heure actuelle, l'ami Steve Albini.
Ah bah à l'heure actuelle, c'est mal barré pour lui.
Ouais, en tout cas, voilà. La face A de Songs of Bad Fucking, pour celles et ceux qui l'ont vinyle, ou les six premiers morceaux, il considère que c'est son meilleur travail de production pour Big Black. C'est vrai qu'il y a un son dingue. C'est ce qui a été fait en Angleterre. Alors que la face B, c'est ce qu'il a fait lui-même avec le groupe. Et les morceaux sont bons, mais c'est un peu moins percutant. Je sais pas, ils étaient en état de grâce. Pourtant, le groupe, c'est peut-être pour ça qu'ils ont été détendus et en même temps ténus, parce que le groupe n'existait plus. Ils avaient décidé d'en finir. Et ils ont fini. La face A, c'est dingue. Il y a une violence, une énergie. On va s'écouter tout de suite ce morceau de Big Black. Place à la musique, le retour de la musique dans Kérosène, quand même.
Merci, tonton Gwen, pour toutes ces anecdotes. We'll be right back.
L'un des morceaux les plus géniaux pour lancer un pogo de folie, enfin même pour danser, s'énerver, se fracasser la tête contre le mur et ou bouger tout simplement de toute votre force. Colombian Knuckle, c'est le morceau qui clôt la première phase de ce Songs About Fucking sorti en 1987. Donc le groupe n'existe pas vraiment plus, et ce qui est marrant, c'est que sur les crédits de cet album, à la base, il y a un certain Melvin Bello, c'est le nom de Santiago Durango qui voulait même pas que son nom apparaisse sur la pochette.
Pas. Mais il y aura plein d'anecdotes comme ça.
Ils sont restés fâchés à vie, même si Steve Albinisk, pour l'anniversaire de Touch & Go, Big Black s'était reformé. Enfin, ils avaient annoncé une reformation, le concert a duré que 10 minutes, parce qu'en fait, Santiago Durango, ça faisait trop chier d'être encore en face de Steve Albini. Donc, rancuné le Santiago. Puis bon, peut-être que c'est vrai que Steve Albini pouvait être assez con à l'époque aussi, quoi. Donc,
pas qu'à l'époque, sans doute, mais c'est pour ça qu'on l'aime.
Et on va revenir comme sur ce premier album sorti en 1986 sur Homestead, l'album Atomizer, dans lequel on retrouve le fameux morceau mythique qui a donné cette nom à cette émission, Kérosène. On va s'écouter un morceau qui s'appelle Bazooka Joe, histoire d'un vétéran qui rentre et ça se passe pas très bien son retour dans la vie quotidienne américaine, et finalement il flingue ses voisins à coups de bazooka. Donc
et on cite le label, le sien, le Restless.
Celui-là c'était sorti sur Homestead.
Sorti sur
Atomizer,
okay. Autant pour moi, et oui.
Le label avec lequel il s'est fortement brouillé, puis il disait à tout le monde de pas acheter. Alors que Homestead, ils ont un super catalogue, mais bon, Albini leur en voulait vraiment beaucoup avec cette histoire de disque gratuit, disque payant, ouais, que je vous ai raconté tout à l'heure pour meubler cet intermède musical. Allez, le fameux Bazooka Joe, fabuleux morceau également. Et ensuite, on va forcément arriver à son deuxième groupe, le fameux groupe du viol.
Rickman.
Welcome back, Joe. Welcome back, Joe. You don't have to be alone, Joe. You don't have to be alone, Joe. Hang with me, Joe. Hang with me, Joe. Hang with me, Joe. You don't have to be alone, Joe. You don't have to be alone, Joe. The Joe Man's back.
jusqu'au bout comme d'habitude. Et juste après Big Black, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Steve Albini se joint à deux petits lascars, dont un qui s'appelle David Sims, qui fait partie à l'époque de Scratch Acid, qui est bassiste, et Ray Washam, qui joue également dans Scratch Acid, mais aussi dans, on le revoit dans Big Boys, dans Helios Creed également. Et il crée ce groupe qui s'appelle Rape Man, alors qu'il va faire parler ne serait-ce que par son nom, Rape Man. Alors le nom provient d'un manga.
C'est ce qu'ils ont toujours, dit pour se défendre.
C'est pour se défendre, et voilà, ils ont dit ça. Bon voilà, Rape Man, évidemment, bon bah le nom, on n'a pas besoin de le traduire. En 89, le groupe va se séparer. De toute façon, il y a un seul album qui s'appelle Two Nunes and a Pack Mule, sorti en 88 sur Touch and Go. Le premier extrait qu'on vous passe, c'était Mono Bro. Voilà, c'est le titre qu'on vient d'écouter qui est un
alors,
titre.
Alors, Albini a toujours eu du mal avec le son de cet album que nous on trouve terrible.
Ah oui.
Il trouvait qu'il manquait de relief, qu'on aurait dû l'enregistrer différemment. Ça faisait partie de ses déceptions. Est-ce qu'il trouvait que, voilà, ils avaient un autre potentiel qu'ils avaient en live, mais en même temps, ils ont donné très peu de concerts parce que David Sims, qui est après devenu le bassiste de Jesus Lizard,
bah, il crée,
extrêmement mal à l'aise avec le terme Rape Man, et c'est quelque chose qu'il assumait pas du tout. Même l'histoire du manga, il trouvait ça un peu fumeux, même si effectivement il y a un manga du même nom qui existe.
Il y a plein de scènes. Justement, il y a plein de, dans ce manga là, il y a plein de scènes de viol, et en fait Albini dit ouais, mais tu vois, je trouvais ça incroyable qu'on puisse dans un manga décrire tout ça. Bon voilà, c'est pour se défendre, et effectivement David Sims se barre et il rejoint voilà avec son acolyte Ray Washam, et ils vont créer avec un certain David Dio Jesus Lizard.
Et juste après Django était déjà créé.
Oui, bah, c'est ce
que ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
C'est en fait Touch Ego, ça s'est créé quasiment pour sortir de l'ornière Steve Albini qui était coincé comme Stead avec l'histoire du truc, ouais. Et en fait Coretus qui disait tiens, j'ai trouvé un financement, puis il y avait d'autres groupes qui émergeaient de Chicago, et voilà, c'est devenu ce gros label qu'on connaît désormais.
Bah, sur lequel oui, il a produit quasiment. Ouais.
Et il se rejoint, en fait, c'est les musiciens de, enfin c'est tout ce groupe Scratch Acid qui va créer après le Jesus Lizard, en fait, donc dont on parlera un petit peu plus tard parce que c'est hyper important.
Steve Albini était coloc également avec le mec Pat Wynn, qui est devenu après le batteur Dutch Overkill, le groupe.
Exactement, on en parlera un petit peu plus tard dans la deuxième partie de cette émission. En attendant, Rape Man, voilà, c'est un seul album. On va écouter un autre morceau qui est absolument, enfin on était obligé de passer ce morceau de toute façon, qui s'appelle Ain't It Shiny, qu'on dédicace fortement en faisant des gros bisous à notre ami Fred, le batteur de Moller Playset, qui kiffe ce morceau.
Aux autres Moller également, on peut à tout Moller.
À tout Moller Playset, évidemment.
Si je peux me permettre.
Mais vous pouvez vous permettre.
Voilà, en tant que femme, je veux juste rappeler que que Albini a fait amende honorable il y a quelques années.
En 2021.
Voilà, pour en disant que en tant que homme blanc, il avait été vraiment con d'appeler son groupe Rapman.
Rapman, il a fait pareil, il aurait appris, sur plein d'autres choses.
C'est ce qu'il a annoncé, qu'en fait, quelque part, il aurait mieux fait dire Black Hole plutôt que Big Black.
Eh oui. N'empêche que Rapman, on va s'écouter le morceau Ain't It Shiny, qui est une putain de tuerie de cet album. Voilà, Two Nunes and a Pack Mule. Voilà, et on écoute ça, c'est sorti en 88 sur Touch and Go, évidemment. Mettez le son à fond, c'est maintenant, vous êtes toujours sur Kérosène pour les 40 ans de cette putain de radio Canal B. Albini est mort, on vous le rappelle.
We'll be right back.
instant dans l'émission Kérosène spéciale 40 heures, un trio qui s'appelle Shellac, formé par Todd Trainer qui joue dans Bricklayer Cake, lui il fait de la batterie, Bob Weston qui jouait dans la basse dans Volcano Sons, un groupe que connaît bien Steve Albini, et donc Steve Albini à la guitare, même si au tout début ce n'est pas Bob Weston qui a fait partie des premières répètes, c'est encore un gars de Naked Reagan, Camilo Gonzalez, et qui paraît-il a beaucoup influencé le jeu de Bob Weston. C'est ce que Bob Weston racontait, vraiment qu'il s'est inspiré des lignes de basse du gars de Naked Reagan qui faisait les premières répètes. Et Bob Weston, bah en fait après voilà, il s'est glissé dans les pas de Camilo Gonzalez.
Il s'est servi.
Et c'est devenu une référence en matière de bassiste noise, on va le dire, Hélène.
Bob Weston qui a produit We and We Side. Non, qui a produit
à peu près 1357 groupes.
Il avait son studio dessous de celui de Steve Albini. Donc ils étaient assez proches, les deux. Ils sont restés proches.
Moi, si j'ai un gamin, je l'appellerai Bob Weston, c'est sûr.
Et donc là, on vient d'écouter.
Ça ira bien, Bob Weston Marteau. Je trouve que c'est pas mal comme nom. Salut, c'est Bob Weston Marteau. Ouais, je trouve que ça sonne bien.
Alors, suite à des photos où, soi-disant, on voyait toujours Bob Weston manger des Big Mac du côté de Primavera, l'avait appelé Mac Weston. Et ça, c'est, on peut le dire, Grigoula Selecta, c'était très bas quand même. Donc,
mais Bob Weston, vous trouvez pas que c'est un petit peu le sosie de...
d'Emmanuel Boeuf de Ecoplane. Non, mais c'est vrai qu'on salue au passage. Non, mais c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion. Et je trouve que je me demande s'il n'y a pas un lien même
de parenté.
Un lien de parenté, quoi.
Bon, bah attends, j'ai trouvé ton sosie, je l'ai trouvé l'autre fois.
Ouais. D'accord, on en reparlera plus tard.
En tout cas, cet extrait de Shellac, c'était extrait du tout premier single qu'ils n'ont jamais sorti, The Register Picture History, le morceau Billiard Player Song. Et on enchaîne avec un morceau du premier album, Shellac at Action Park, un album qui a marqué pas mal de gens, même s'il y avait les grincheux du noise dont on a fait partie, qui disaient, non, Rapeman c'était mieux que Shellac, gna 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 gna. Au fil des années, il est quand même chouette, cet album de Shellac. Et en plus, ça donnait une idée à un groupe du Havre qu'on aime beaucoup.
Qui s'appelle Dog and Pony Show, c'est le titre de, voilà, qu'on va écouter. Et Dog and Pony Show, voilà, on les a fait au Marquis de Sade, ça a été une super rencontre.
Une soirée Kervinou, j'étais persuadé que c'était Cachou.
Non, je crois. Ah oui, effectivement, c'est une soirée Kervinou, mais en même temps, on est un peu.
Consanguin.
Et Dog and Pony Show, voilà, ben, on les salue déjà parce qu'ils nous suivent toujours avec Kérosène.
C'est fort possible que l'ami Brunet nous écoute en direct.
C'est fort possible. Ouais. Et donc, ils ont donné, voilà, ce Dog and Pony Show a donné le nom à leur groupe. Et c'est pas un hasard, c'est super morceau.
C'est un des meilleurs morceaux de Shellac. At Action Park en 94 sur le label Touch and Go.
Bisous les Havrais.
left us naked out here in the sun. Dog and Pony Show.